Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec évidemment les brillantissimes critiques Sophie Avon de Sud-Ouest, Daniel Eman de Bande à Part, Nicolas Chalère de L'Obs et avec Xavier Le Herpeur de Septième Obsession qui a mis un étrange souhait rouge et noir. Comment est-ce qu'on peut le définir?
C'est une tenue de camouflage
voyante.
Voilà.
C'est ça?
Qui convient à la fois au terrain militaire, et oui, aux soirées un tout petit peu branchées.
Un peu branchées.
Tu ne vas ni dans l'un, oui, ni dans l'autre.
Non. Non, ça c'est
vrai. Tu ignores tout de cette mode-là, mais voilà.
Alors, ce soir, on parle de films très gays. signé Fatih Akin, Martin McNogag, Emmanuel Finkiel, Andrea Palaoro, et puis le nouveau film de Spielberg, bien sûr, brillantissime, de Michel Larocque, on sera rapide, La juste route de Ferenc Török. Dans le courrier de la semaine, Valérie, qui donne le bonsoir de sa voix aux démasqués et emplumés, a vu La promesse de l'aube d'Éric Barbier avec 4 classes de 3e. Figurez-vous que ça leur a plu. 2h10 sur la vie de Romain Gary, je vous ai trouvé sévère, j'ai trouvé Pierre Ninet très bien. Quant à Charlotte Gainsbourg, à part un moment où j'ai eu la vision de Marthe Villalonga dans Un éléphant, ça trompe énormément, elle fait une belle prestation, bref, un bon moment passé avec nos élèves. J'arrive pas à voir le moment où elle a imaginé Marthe Villalonga à la place de Gainsbourg. Bernard Collin de Paris est heureux. Bravo mon masque, tu as parfaitement résumé Downsizing d'Alexander Payne, intéressant pendant 45 minutes, puis barbant pendant 1h30. On commence dans un épisode de Black Mirror, une très bonne série, et termine dans La Belle Verte, un très mauvais film. Bon courage à ceux qui vont quand même choisir de se le taper. Philippe Couteillas pense qu'avec cet immense personnage que fut Churchill, on aurait pu faire beaucoup mieux que Les Heures Sombres, ça c'est sûr. À aucun moment je n'ai éprouvé ce sentiment d'urgence, ni cette pression énorme que devait ressentir Churchill devant la décision à prendre. Autre film, Normandie nue de Philippe Le Guay. Si Catherine Lopez rebaptise le film Normandie nulle, le seul point positif, c'est les prises de vue de la campagne normande. D'ailleurs, Alain Bouvier précise que, contrairement à ce qu'on disait, le Mail-sur-Sarthe est dans l'Orne et non dans la Sarthe, ça c'est vrai. Au contraire, Isabelle Chicalsi, dont le compagnon est éleveur, a retrouvé beaucoup des problèmes rencontrés par les habitants des campagnes dans Normandie nue. Enfin, dommage que Pierre Murat ne soit pas là, puisque Pierre-Louis Anceau, qui nous écoute toutes les semaines en podcast depuis Taïwan, ajoute son avis à un débat permanent au masque, puisqu'il nous dit « Au cinéma, l'histoire importe peu, c'est la manière dont elle est racontée qui compte. J'en ai assez que les auditeurs opposés au divulgachage fassent pression sur mon masque. S'il vous plaît, cette semaine, racontez la fin de tous les films.
» Chic.
Alors moi, il faudra un jour qu'on me dise ce que vous voulez, parce que soit c'est un courrier assassin pour Michel Simon parce qu'il a raconté ce qu'il fallait pas raconter pour Star Wars, ou alors c'est Pierre Murat, parce que là, c'est un peu vicieux. Cette semaine, j'ai reçu du courrier parce que dans Télérama, pas au masque, Pierre Murat a raconté beaucoup de choses de Billboards. Et donc, on m'accuse de l'avoir laissé écrire dans Télérama. Donc c'est sans fin, je crois que ce débat est sans fin. Allez, on commence évidemment avec Pentagon Papers, le nouveau film de Spielberg, encensé par toute la presse, presque toute la presse, avec Meryl Streep et Tom Hanks, autrement dit, Katharine Graham, la patronne du Washington Post, et Ben Bradley, son rédacteur en chef, qui vont batailler, rivalisant à la fois avec la Maison Blanche de Nixon et avec leur concurrent, le New York Times, pour publier cet énorme document secret défense de 7000 pages, obtenu illégalement, qui démontre la responsabilité des États-Unis dans la guerre du Vietnam et surtout leur manipulation pour la justifier. Ça se passe en 1971, on est un an avant l'explosion du Watergate, à une époque où la presse papier avait encore il faut le dire, une odeur et du pouvoir, et où les journalistes s'apparentaient volontiers à des Indiana Jones. Sophie ?
Comment dire ? Je ne suis pas emballée du tout par le film.
Ah,
alors,
donc,
tu vois, je ne fais pas partie de
la
majorité de la
presse. Parce que je me sentais très seule cette semaine.
Ah ben, tu vois, tu n'es pas seule.
Non, mais,
je suis vraiment,
ouais,
vraiment...
Ça fait longtemps que je n'ai pas vu 4 étoiles, par exemple, dans Le Monde,
ouais, mais
pour définir ce film.
Mais oui, Le Monde a parfois des drôles d'avis. Mais oui. Que veux-tu, là, je ne suis pas du tout d'accord avec eux et je suis d'accord avec toi. Non, je trouve que bon, l'histoire est passionnante, est intéressante et il y a une vertu sans doute pédagogique, mais on aimerait bien que la vertu pédagogique aille avec une vertu cinématographique. J'ai trouvé ça très plan-plan. Je trouve que si Spielberg raconte ça de manière... Enfin, c'est daté, j'ai l'impression d'avoir vu ça 1000 fois, et en dépit d'un scénario qui est solide, parce que c'est un... Et qui oriente ça de manière intelligente, avec l'histoire finalement d'une femme qui s'émancipe, ça passe tellement par le filtre hollywoodien des stéréotypes. C'est-à-dire que c'est pas du journalisme, c'est l'idée qu'on se fait du journalisme. Donc on a... Et alors, plus... Tom Hanks et Meryl Streep, qui sont évidemment les acteurs dont on a le sentiment qu'il est tellement content de leur dérouler de tapis rouge, qu'il surjoue à mort. Donc, lui, il surjoue la virilité journalistique, le type qui est prêt à tuer père et mère pour faire un scoop. C'est l'idée qu'on se fait du journalisme. Mais nous, en plus, on est journalistes, on voit bien que c'est pas tout à fait comme ça non plus. Meryl Streep, elle surjoue la pusillanimité. C'est une bonne idée d'en avoir fait une femme timide, effacée, qui est considérée comme une potiche et qui, petit à petit, avec douceur, va imposer et devenir le
ça, c'est vrai de la...
C'est vrai, le scénario, même si c'était pas vrai d'avoir poussé le curseur vers ça, c'est très bien qu'elle devienne ce... Mais là aussi, elle surjoue la timidité, c'est quand même un comble de surjouer la timidité. Donc du coup, moi j'ai eu l'impression tout le temps de voir derrière les producteurs qui s'étaient frottés les mains en se disant « Oh, ça va être une bonne histoire avec Tom Hanks et Meryl Streep ». Et ça, c'est quand même très emmerdant de sentir ça derrière un film.
Et puis moi, j'ai trouvé les dialogues, par exemple, très attendus. C'est-à-dire, chaque fois, j'avais le sentiment de savoir ce qui allait se passer.
Et parce que dans le stéréotype.
Dialogue suivant, non.
C'est le stéréotype qui fait ça.
Non, je suis pas d'accord. Mais c'est un film qui m'a enthousiasmé. Alors après, je vais pas vous dire que c'est un des plus grands films de
Spielberg.
Ça, c'est
Nicolas, donc, qui prend la parole.
Oui. Je peux.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Non, mais moi, ce que je trouve très beau, c'est comme souvent chez Spielberg, c'est le pur mouvement de cinéma, c'est-à-dire c'est de créer un suspense à travers ce qui n'est au fond que des histoires de discussion dans des chambres, dans des pièces, d'arriver à créer un suspense là-dessus. Le travail sur les images d'Épinal, mais Spielberg, il passe que par ça. Spielberg, c'est vrai qu'il a un côté assez pédagogique. Il raconte le présent à travers toujours le passé, à travers ça fait partie aussi de son optimisme. Il y a quelque chose comme ça c'est comme reprocher son idéalisme à Capra ou le côté un peu patriotique des films de Ford. Ça fait partie du cinéma de Spielberg. Moi, je trouve qu'il y a un mouvement dans ce film, une manière de raconter le métier de journalisme et vraiment plein de petits détails. C'est-à-dire que, on voit du début, de la première ligne du papier, puis à toute la réflexion, jusqu'au rotative et avant, ça passe, c'est bien montré parce que,
avant, mais Nicolas, mais ça a été montré.
Non, mais bien sûr, mais sauf que la manière dont il le fait, quand, le noyau du film, c'est qu'ils sont en train de discuter, de réfléchir, à savoir, est-ce qu'ils vont papuer le papier? Donc, il y a un suspense, c'est une scène géniale où il y a 4 personnes au téléphone, Meryl Streep, tout ça, il y a un jeu de pression politique, personnelle et tout ça. Ils décident finalement, en même temps, tout le monde sait l'histoire, je ne dis, vous ne gâchez rien.
C'est ce que j'allais dire. De toutes les manières, on sait comment ça se termine.
On sait comment ça se termine. Mais un détail, il y a le travail des grouillots, donc le petit assistant qui va amener le papier, la première chose que fait le SR quand le papier arrive, le précieux papier qu'ils ont, il barre la première phrase. Tout le travail, toute la mise en scène de Spielberg, c'est ça, c'est de travailler le détail et de créer et d'arriver à créer un suspense sur des choses attendues. Après, il y a la dimension, bien sûr, politique du film, la manière dont il filme Nixon, qu'on voit toujours derrière la fenêtre, en ombre chinoise, au téléphone, qu'on identifie, on ne voit qu'une silhouette. Bien sûr, forcément, c'est une manière aussi cinématographique renvoyer à Trump. En fait, il traduit des choses assez simples en idée de cinéma, qui, moi, m'enthousiasme avec une énergie. Meryl Streep, elle joue une femme. Ça, c'est assez beau aussi, l'émancipation de ce personnage qui se retrouve au pouvoir malgré elle, qui est très pataude. Il y a une dimension comique dans le film aussi, il faut la voir. Il y a une lourdeur, une légèreté que je trouve le film, il y a eu un vrai charme.
On sent que tu as aimé.
Voilà, non mais voilà, après, je vais pas vous dire, il y a des lourdeurs à la Spielberg, il y a des scènes où il veut le sens de la famille, tout ça, mais je trouve qu'il y a un vrai. Voilà, je suis enthousiaste. Moi, je sors de ce film, j'ai envie de dégoter un scoop.
Ah bah oui. Non, mais alors, on ne peut pas dire que ça ne soit pas un sujet absolument vraiment passionnant. Et on ne peut pas dire que, effectivement, le pouvoir de la presse est toujours menacé et qu'il y a une résonance contemporaine et moderne.
Oui, sauf que, c'est, encore une fois, ce n'est pas la même presse.
Mais non, ce n'est pas du tout la
même
presse.
C'est une presse écrite qui avait un pouvoir énorme qu'elle n'a plus aujourd'hui.
Oui,
mais c'est très important.
Mais d'un sujet passionnant, d'un suspense quand même, bon, effectivement, on sait comment ça finit, bon, même sans Pierre Murat, mais quand même, ça n'a pas été très, très, très facile. Et bon, et il y a effectivement cette extraordinaire, entre le Washington Post et le New York Times, cette rivalité mortelle. Bon, donc, il y a des enjeux dramatiques en dehors du dossier qui est énorme. Il y a des enjeux dramatiques permanents. Et la platitude extraordinaire de la réalisation est absolument, mais complètement stupéfiante. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans des bureaux et qui se parlent. Oui, évidemment, oui, ils ont des choses à se dire. Bon, très bien. Puis alors, quand ils ont fini de se parler dans une pièce, ils enclenchent de longs couloirs, parce que quand même, tout ça est très angoissant. Alors, les longs couloirs, ça, on en a. Bon, alors, effectivement, à un moment donné, j'étais quand même un petit peu pleine d'espérance, en me disant, c'est aussi, et ça, c'est quand même très, très contemporain aussi, un film féministe. Parce que, quand même, elle est prise, Meryl Streep, 4 grammes, comme une potiche, comme une veuve friquée, et que elle n'a aucun sens du journalisme. Mais si. Et tout ça est très pâteau. Ça manque incroyablement de finesse pour un dossier.
Mais c'est le cinéma que fait Spielberg depuis des années. Exactement. On ne le découvre pas aujourd'hui. Franchement. Souvenez-vous de Munich, souvenez-vous des sujets qui étaient...
Dans Le Pont des Espions, il y avait plus de cinéma.
Allez, Xavier.
Malheureusement, je suis désolé, Nicolas, je vais rejoindre le camp très agréable des femmes. Je suis entièrement d'accord avec Daniel et avec Sophie. Je trouve que c'est un film, vous l'avez dit donc déjà formellement et sur l'interprétation, je ne vais pas en rajouter, la manière dont il filme, la détermination de Tom Hanks qui consiste à lui faire poser les pieds bruyamment sur le bureau, parce qu'on ne délogera pas, parce que moi j'ai les couilles, messieurs, mesdames, et j'irai jusqu'au bout, alors que deux heures avant, ils s'en foutaient comme de l'entrante. Il était en train d'essayer de savoir s'il n'allait pas se vexer Nixon en publiant les photos de sa fille de son mariage, dont même le personnage n'est pas très bien écrit et pas très bien contextualisé. Elle est toujours tourner fébrilement comme ça, et au moment où elle prend la décision de se rebeller contre son monde d'homme, ce monde comme ça de censure, la caméra s'élève au-dessus d'elle comme si elle était aspirée par le divin. Enfin, c'est ridicule en termes de mise en scène, soyons quand même. Mais c'est vraiment encore le Steven Spielberg qui m'énerve. C'est-à-dire que c'est un film prudent, c'est un film qui finit bien, c'est un film qui essaie de nous faire croire qu'aux États-Unis la presse encore est liberté. Mais bonhomme, regarde ce qui se passe autour de toi. Il le traite pas. Là, t'es en train de juger la note d'intention. Il le traite pas.
Il traite pas. C'est un.
Non, mais Trump.
Il est en train de dire que qu'un monde a changé. Il le fait de manière avec une forme d'humour
mais
et d'ironie.
Mais qu'il le dise. Là, il nous raconte une histoire qui s'est bien finie, où la liberté de la presse a triomphé, où l'Amérique a triomphé. Mais ça n'est plus le cas. Il faut regarder le pays tel qu'il est. Je m'en fous de savoir qu'un jour le Washington Post a fini par publier le rapport McNamara et qu'elle s'est émancipée et qu'elle a pris la décision. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et Spotlight était éminemment plus intéressant, plus incisif et plus contemporain. C'est un film recroquevillé sur sa petite histoire, qui se rappelle et qui essaie de nous rappeler que l'Amérique a été grande, glorieuse, mais je m'en fous. C'est vraiment un film inopérant, c'est un film d'autière, ça n'a pas d'intérêt. Elle, on a l'impression qu'elle va jouer un remake d'Arabesque, elle est habillée comme Jessica Fletcher. Il y a un moment où ça sent tellement la poussière que je ne vois pas l'intérêt qu'il a eu, à part l'opportunisme de remettre deux vedettes à l'écran dans des rôles taillés pour eux et pour les Oscars. C'est raté, personne n'y va à part elle.
Tout petit peu excessif, mais ça fait du bien de t'entendre après la semaine que je viens de vivre en lisant toute cette presse sur Pentagon Papers de Spielberg. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film ?
Laurent Wauquiez sort de ce corps.
Non. Qu'est-ce que tu viens ? Tu viens d'insulter Nicolas Chalère ?
Oui, Guy, qu'est-ce que tu as dit ?
Non, rien, je ne répéterai pas.
Un truc à la Laurent Wauquiez, c'est la pluie. La pluie, c'est la mouille, la guerre, c'est moche.
Je ne sais pas de qui tu veux parler. On reste aux États-Unis avec trois billboards, les panneaux de la vengeance, c'est le film américain du Britannique d'origine irlandaise. Martin McDonagh, qui n'a pas volé son prix du scénario à Venise, ni, je crois d'ailleurs, ses quatre Golden Globes avec Frances McDormand. Woody Harrelson, Sam Rockwell, Abby Cornish et Frances McDormand, c'est Mildred, une femme qui se révolte contre la police. Elle le fait clairement, puisque 7 mois après le viol, elle meurt de sa fille. Et alors que l'enquête n'a pas avancé, elle utilise 3 grands panneaux d'affichage à l'entrée d'une petite ville du Missouri pour clamer sur fond rouge sa colère, agonisante et violée, toujours pas d'arrestation. Pourquoi chef Biloubi, c'est peut dire que la ville a été assez vite retournée. Le shérif Willoughby, c'est Woody Harrelson, qui se bat contre le cancer, ça on peut le révéler, mais qui n'est pas trop ébranlé. Son adjoint Dixon, c'est Sam Rockwell. Et
lui, il a eu aussi un prix. C'est lui qui a eu le quatrième prix.
Quel quatrième prix? Qui est moins philosophe, il faut dire. Il est vrai qu'il est assez cumulard, raciste, misogyne, alcoolique, brutal, je crois que j'ai dû en oublier. Et rien n'arrête la mère Courage dans son combat. Elle dit d'ailleurs que j'ai lu une interview où elle disait qu'elle avait un peu emprunté à John Wayne pour ce personnage. Le début, je trouvais ça d'une force incroyable. À la fin, c'est un tout petit peu étiolé. C'est-à-dire, je trouve que le sujet est tellement fort au début que, Xavier.
Bah, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un film qui m'a fait espérer énormément de choses. Que la situation, l'ouverture, ces trois panneaux, cette femme qui se bat, cette femme qui a tout oublié de sa féminité, de sa présence, qui n'a que ce combat pour la justice qui l'anime, absolument passionnant. L'auto-justice, faire justice, réclamer justice dans un pays comme les États-Unis aujourd'hui. Là, je suis désolé, Nicolas, c'est contextualisé, c'est contemporain et c'est intéressant. Après, il y a un moment où j'ai l'impression que dès qu'il a un personnage un peu méchant, un peu noir, il s'excuse et il essaye de le récupérer, de le réhabiliter. Donc il y a un moment.
D'où le personnage de Dixon qui va changer. On n'en dit pas plus.
Avec une hypothèse de sexualité qui serait enfouie, mais qui passe par une métaphore d'une lourdeur qu'on peut discuter ici, mais nous ne le ferons pas. Il y a un moment où je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il a si peur de sa noirceur qui est réelle, qui est contemporaine, qui dit quelque chose de ce pays, sur effectivement l'Amérique profonde, l'Amérique raciste, l'Amérique qui a élu Trump, l'Amérique qui interdit l'identification et l'identité sexuelle, la différence, la couleur de peau. Pourquoi est-ce qu'il a tendance à excuser comme ça constamment les personnages, même à la fin, que je ne raconterai évidemment pas. Il y a deux hypothèses, c'est un pas en arrière, un pas en avant, et je me dis que le film se résume malheureusement à ça. Il est brillant scénaristiquement, il est extraordinairement joué. Évidemment, on ne pourra pas dire le contraire, il est plutôt bien mis en scène, mais on a l'impression qu'il s'excuse et qu'il ne va jamais complètement à l'extrême de son audace, et ça, moi, ça me frustre un peu.
Nicolas ?
Moi, je trouve pas du tout qu'il s'excuse, justement. C'est peut-être ce qui parfois peut être un peu désagréable dans le film, c'est qu'il est, il est assez brut de décoffrage et il n'arrête pas de changer. Enfin, les personnages n'arrêtent pas d'évoluer et notre regard sur eux d'évoluer. Et c'est ça qui a d'ailleurs beaucoup dérangé aux États-Unis, puisqu'on reproche aux Golden Globes d'avoir primé Sam Rockwell parce que le personnage est raciste et que d'une certaine manière, comme tu le dis, il va être excusé à la fin.
Mais qui l'a reproché?
Il y a eu sur Twitter, ça a déferlé et le New York Times a repris, a fait un article. Enfin, bon. Revoyons Taxi Driver fin des années 70, on va tout effacer si on continue. Donc non, mais moi je trouve que le film est assez brillant dans sa manière de il y a à la fois un côté théâtral dans le film, c'est très dialogué, surdialogué, parfois un peu surdialogué justement, mais il y a un plaisir, moi je trouve, des personnages, de voir des comédiens s'emparer de rôles et en faire parfois un peu trop, mais c'est pas grave. Moi ça me fait penser aux films des années 60 avec certains films avec Brando où Rockwell parfois en fait un peu trop, mais en même temps il y a le plaisir du jeu, il y a le plaisir du dialogue, il y a une Amérique, c'est donné à des petites gens une grande histoire. Il y a vraiment quelque chose dans le film à la fois de très tragique au fond, et puis avec un humour noir qui surprend tout le temps. Quoi. Je trouve qu'il y a vraiment, c'est un cinéma qu'on voit plus beaucoup. Et Martin McDonagh, qui avait fait deux films avant qui étaient bien plus mineurs, là je trouve qu'il signe une sorte de petit classique instantané. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Moi ça me fait penser un peu, même dans la rupture de ton, dans tout ça, ça me fait penser à du Pinter chez les frères Cohen. Quoi. Il y a cette idée là. Il y a à la fois quelque chose de très théâtral et de très américain, une espèce de peinture d'Americana que je trouve très belle.
Daniel.
Ah, moi, je trouve ça absolument formidable du début à la fin. Tous ces personnages dans ce trou perdu du Missouri, sur cette route qui ne mène plus nulle part parce qu'il y en a une autre qui a été construite, ces panneaux immenses, rouges, dans ce paysage désolé.
Elle les prend parce qu'ils sont inoccupés.
Donc, et que la route est condamnée. Ce que je trouve de totalement réussi dans ce film, c'est qu'effectivement, tous les personnages ont une hotte de péché, de mauvaise conscience. Tout le monde, personne n'est exempt de catastrophe personnelle. Et effectivement, c'est comme ça quand même dans des scènes d'une violence avec un type qu'on défenestre, un commissariat qui flambe et puis il y a des gens dedans. Mais bon, ça devrait être insoutenable, mais la vie continue, la vie va avec cette icône de la... Ça n'est pas de la vengeance, je trouve que le titre français...
Non, tu as raison.
Les panneaux de la vengeance, c'est pas ça.
C'est pas du tout ça.
Non, elle est obsédée. Elle est obsédée par la mort de cette fille, de sa fille, et il y a des ruptures de ton permanentes. Le film commence, elle pose simplement des fleurs sur cette route. Je veux dire, et on dit, mais où va-t-elle aller? Est-ce qu'elle va aller jusqu'au bout? Oui, elle est effectivement, comme dans un western, elle
d'ailleurs,
va jusqu'au bout.
Petite parenthèse, mais elle préfigure beaucoup d'héroïnes dont on va parler voilà. dans les films qui suivent, d'ailleurs qui sont voilà. des films taillés pour des femmes, voilà. qui ont toutes...
Mais je veux dire, ce que Frances McDormand, moi de toute façon, je veux dire, elle est restée mon icône absolue après Fargo des frères Cohen, mais là, elle est... incroyable, enfin, sa féminité totalement réfutée pour aller au bout. Et effectivement, avec des pointes, des espèces d'éclats d'humour noir foncé qui font qu'on va jusqu'au bout avec un plaisir fou.
Sophie.
Oui, moi je suis d'accord avec Daniel, je trouve que c'est un film très réjouissant. Avec, en effet, elle se venge pas, elle veut pas qu'on oublie, elle veut réveiller cette ville. Elle veut les réveiller, elle veut les emmerder comme elle, les réveiller la nuit par la mort de sa fille. C'est beaucoup plus fort que de vouloir juste se venger. Mais c'est un film de personnages, et c'est vrai, on a tous parlé de ça. C'est vraiment un film où les personnages, et là je trouve un peu dur Xavier, parce que je trouve que tous les personnages sont quand même vachement bien dessinés, et justement ils sont toujours surprenants, même... Enfin, c'est quand même l'Amérique profonde, c'est les déchiens quasiment. Certains sont monstrueux, certains sont idiots, abrutis. Enfin, Sam Rockwell, il est quand même complètement idiot. Et en même temps, il est complexe. Il est surprenant, en effet, et c'est pas juste parce qu'il s'excuse, parce qu'il veut excuser son personnage de faire ça aussi. Moi, je le vois comme un personnage qui a beau être idiot, il est quand même compliqué à sa manière, et ça, c'est merveilleux, parce qu'en plus, il est jamais, lui, Martin McDonald, il est jamais en surplomb de ses personnages. Il les filme avec une espèce de tendresse, un peu comme Soderbergh a pu le faire parfois dans certains films. Il filme cette Amérique profonde avec une tendresse, avec
une compassion, compassion pour
ouais,
ce personnage.
Et c'est beau, parce que c'est une tragédie, mais on rigole, c'est hyper drôle.
Trois billboards, les panneaux de la vengeance, et c'est signé Martin McDonagh. Des réactions sur ce film, non. Autre forme de vengeance, avec In the Fade, le film du cinéaste allemand d'origine turque Fatih Akin, qui n'est pas, en tout cas, mon meilleur souvenir du Festival de Cannes. Diane Kruger s'y est vue quand même gratifiée d'un prix d'interprétation féminine, avec également... Denis Mosquito et Numan Akar. Diane Kruger, c'est Katia, dont le mari d'origine kurde et leur fils de 6 ans ont été tués dans un attentat fomenté à Hambourg par des néo-nazis. Résultat, 1h45 de mélo, avec beaucoup, beaucoup de pathos, au moins qui est revendiqué, qui est avoué, les litres de larmes qui vont avec, un peu de coke aussi. Et puis trois parties, le deuil, le procès, la vengeance qui va être menée, la vengeance jusqu'en Grèce, comme une action punitive, avec une Diane Kruger qu'on retrouve d'ailleurs pour la première fois à l'écran dans sa langue natale, qui est, je le rappelle, l'allemand. Je fais partie de ceux qui avaient aimé De l'autre côté ou Eden, et je n'ai pas un seul instant cru reconnaître Fatih Akin dans ce film In the Fade, que je n'ai pas revu. Je suis honnête, depuis le Festival de Cannes. Xavier, tu l'as revu ?
C'est parce que j'aime Fatih Akin et comme toi, de l'autre côté, qui est un excellent souvenir, que je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas rester avec l'impression que j'ai eue à Cannes, je vais revoir le film.
Mais tu l'as revu ?
Mais pourquoi y suis-je allé ? C'est-à-dire, je crois que je le déteste encore plus qu'à Cannes.
Bah oui, mais ça, c'était prévisible.
Non, de temps en temps, il y a un petit moment de grâce, on peut le souhaiter. En tout cas, vraiment, j'y allais dans cet esprit-là. Je voulais absolument pas lui retordre le cou. Et je suis mais estomaqué d'abord par la bêtise du scénario. Il y a quand même des dialogues effroyables. 30 secondes avec l'explosion qui va entraîner donc le père et le fils. Le père dit à son fils, mon fils, tu iras plus loin que moi. Ben non, dans 30 secondes, vous allez terminer en cendres. Donc j'ai un petit peu raté, déjà, hein, comme ça. Téléphonons un tout petit peu la tragédie, faisons dans la finesse. Et on va avoir ça pendant tout le film, qui est d'une bêtise, mais vraiment gênante. Dès qu'elle perd donc son mari et son fils, elle n'a plus de règles, elle n'a plus de menstruation. Détail anatomique dont on pourrait se passer, mais que Fatih Akin veut absolument souligner, parce qu'une heure après, quand effectivement elle sera en Grèce, elle va retrouver ses menstruations, ce qui semble nous dire idéologiquement qu'elle redevient un être humain, une femme, mais un être humain par entière, puisqu'elle s'apprête à se venger. Or non, monsieur Fatih Akin, je suis désolé, la vengeance, c'est notre part animale, c'est pas notre part humaine, ou en tout cas, moi j'ai envie d'espérer que notre intelligence puisse nous permettre de dépasser ce sentiment impulsif qui est celui de la vengeance. Donc déjà, on n'est pas d'accord. Et puis moi, il y a un truc qui me gêne beaucoup, c'est que dans ce mélo qui est constamment consacré sur elle, il pleut des milliards de litres d'eau sur la pauvre...
J'ai jamais vu autant de larmes que dans...
Comme si le ciel pleurait la tragédie qu'elle est en train de traverser. Et c'est tellement caricatural que moi, ça m'exclut complètement de toute forme d'émotion de ce mélo. On entend durant le procès jamais les deux nazis, puisque c'est comme ça qu'on les résume, qu'on les désigne pendant tout le film. On ne les entend jamais. Mais moi, cette parole, elle me débecte, mais je veux l'entendre. Je veux comprendre pourquoi des gens qui ont mon âge ou même qui sont plus jeunes sont sensibles à l'idéologie néo-nazie. Je suis désolé pour le drame de cette femme qui est tellement lourdement écrit que du coup, on en est exclu. Mais comment ils nous racontent quelque chose? Comment cette nouvelle génération peut être sensible à Hitler? Comment Aube Dorée, puisqu'à un moment elle est citée en Grèce, fonctionne? Et non, pas du tout. On reste sur cette héroïque à qui il arrive.
Alors, oui, et puis, tu as tout à fait raison, parce que moi, je me souviens qu'à Cannes, je me disais, mais c'est étrange, je n'ai aucune, mais aucune compassion pour cette femme.
Mais aucune.
Qui vient de vivre l'horreur absolue.
Et pourtant, elle se suicide. C'est une scène au ralenti, avec des flots de sang qui sont déversés dans la baignoire et tout ça. Elle est sauvée par un coup de fil. Enfin, c'est tellement ridicule. C'est tellement d'un autre temps. Bah oui, c'est pour ça que je l'ai vu. Je l'ai revu. Je l'ai bien en mémoire.
Tu ne divulgages pas.
Bon, non, elle se suicide au bout de 20 minutes. Il reste quand même 1h25.
Ah oui, c'est vrai.
Non, dans la baignoire, quand elle se taillade.
Oui, enfin, elle se rate. Elle se rate, hein, parce que.
Non, non, elle interrompt le suicide parce que son avocat est en train de
s'appeler.
C'est vraiment de mauvais goût, ça. Hein.
Je l'ai revu.
Bon.
Mais c'est terrible, c'est indéfendable.
Sophie.
Je vais être un peu moins sévère parce que j'ai détesté le film quand je l'ai vu à Cannes. Je suis allée le revoir et en le revoyant.
Ah, tu l'as revu aussi.
Oui, oui. On est scrupuleux. J'ai quand même.
Ça fait deux entrées de plus pour le film.
Voilà, ce que j'avais.
Vous êtes un peu maso quand même, franchement. Parce que...
Ah ben, tu nous le mets au programme, nous, on y
oui,
va.
Oui, non,
hein.
Mais je veux dire que croire que ça peut évoluer quand on a vu ce qu'on a
ben,
vu.
La preuve, c'est que moi, je l'ai trouvé. Alors, franchement, c'est pas un bon film et je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Xavier. Néanmoins, les termes d'indigne et de honteux me paraissent. C'est un tout petit peu excessif par rapport à cette fin, qui en effet est merdique, qui en effet est problématique.
Oh ben voilà,
elle est très mystérieuse, cette fin.
Ah non, mais c'est toi, Jérôme.
Pour moi, ça reste une énigme.
C'est toi qui... Je te signale que la troisième partie, elle ne s'appelle pas La Vengeance, elle s'appelle La Mère. Donc, c'est toi qui, d'une certaine manière...
Oui,
La Vengeance, c'est La Mère. Donc
c'est
tu
la
j'ai dit qu'il y avait une
version
avait...
de tragédie.
Oui,
non, j'ai parlé d'action punitive.
Enfin, non, là tu es de mauvaise foi. S'il y en a un qui a légèrement fuité, je vais dire,
non.
C'est peut-être plus toi que moi. Mais
bon,
bref.
Je sais même plus ce que je fais maintenant. C'est
Toujours est-il que cette fin, quelle qu'elle soit, dévoie complètement le film, que je trouve au début quand même plus du côté du documentaire. Et alors, en effet, il pleut trop, en effet, il y en a trop. Mais je trouve que tant que ça reste dans le réel, il y a quelque chose d'assez fort, même si en effet, les dialogues sont en trop, etc. Mais quand même, je veux rendre hommage à Diane Kruger. J'avais pas compris quel est le prix à Cannes. Et en revoyant le film, je dois reconnaître que ce qu'elle fait, c'est extraordinaire. Je trouve que c'est extraordinaire. Alors, on n'a pas plus d'empathie.
Pour toi, le prix est légitime.
Le film est mauvais et elle est formidable. Voilà, c'est étonnant, mais je pense que le prix, en effet, est légitime parce que on oublie que c'est Diane Kruger, on y croit. Et même si on n'a pas de compassion par la suite pour elle, ce qu'elle fait, c'est immense. Vraiment, c'est
Daniela.
Très bien.
Non, moi, le problème, c'est que j'aimerais y croire. Parce que le travail de Diane Kruger est remarquable. Elle y croit. Elle voudrait nous le faire croire. Et le film nous empêche totalement.
Film, ouais.
Voilà. Et en plus, le faux polar, la fausse enquête, la clé du garage, enfin, je veux dire, tout ça est inepte. Alors qu'on devrait être entraîné à la fois dans cette tragédie intime et dans la tragédie politique. Or, non, rien. Le procès d'un ennui absolument abyssal. Et effectivement, il y a ce couple d'ados, sympa, là, les petits nazis, dont on ne sait... Mais très, très mignons, hein, vraiment.
Propre sur eux, bien habillés.
Hein, oui. Propre sur eux, puis après, ils vont en vacances, c'est tout.
Faut,
oui,
ils
sont un peu renfrognés, quand même.
Un peu renfrognés, oui, parce que quand même. Mais on est saisi par, justement, l'incapacité de transmettre ce que... Effectivement, on nous raconte comment se fait-il, comment Fatih Akin qu'on aime, enfin, et qui a montré, au contraire, dans tous ses films précédents, une hypersensibilité, comment il arrive à nous rendre absolument insensible à cette tragédie et au travail remarquable d'une actrice qui fait ce qu'elle peut pour nous convaincre.
Nicolas.
Oh bah moi je rejoins à peu près tout ce qui s'est dit. C'est-à-dire que effectivement Diane Kruger, c'est un petit miracle qu'elle se sorte, dire indemne de ce ratage total. Moi je pense que la vraie bascule du film, elle se joue dans le procès. C'est-à-dire que le procès, c'est je pense qu'on peut pas montrer de manière plus caricaturale. Donc effectivement ces deux nazis qui sont comme ça un peu cyniques, qui regardent de loin, qui prennent jamais la parole. Et puis l'avocat est hallucinant. Je crois que c'est Ulrich Joucourt, si je dis pas de bêtises.
Non, le Joucourt, c'est le père.
C'est
le père.
Ah, c'est le père, pardon.
Oui,
c'est
le père.
J'ai pas envie de Picard, je suis désolé. Enfin, voilà. Donc, vraiment, et là, le film bascule vraiment au moment du procès. Déjà, sur le papier, on se dit, mais comment il peut se sortir d'un tel sujet aujourd'hui, avec l'actualité qu'on connaît, et d'aller à ce point, s'enfoncer à ce point, dans le pathos et dans les faux pas, dans les mauvais choix à chaque fois, c'est assez hallucinant. Donc, oui, que Diane Kruger se sorte de ça, chapeau.
C'est In the Fed et c'est Fatih Akin, personne, j'imagine, pour défendre ce film. Autre personnage de femme en souffrance, c'est La Douleur, l'adaptation par Emmanuel Finkiel du livre de Marguerite Duras, incarnée ici par Mélanie Thierry avec Benoît Magimel. Très bien, pour le coup, dans le rôle de l'affreux gestapiste rabié. Benjamin Biolay, toujours aussi peu inspiré, lui, qui joue son amant Dionys. Ah non, mais c'est vrai. J'ai dit une chose qu'il fallait pas dire.
Il est bien dans le film.
Ah, je sais pas, j'ai toujours l'impression qu'il a des maux de ventre, lui. Quoi qu'il joue, Benjamin Biolay, qui donc est l'amant Dionys Mascolo, et Grégoire le Prince Ringuet, en François Mitterrand, alias Morlan. Et même s'il n'apparaît qu'à la fin, Emmanuel Bourdieu dans le rôle tragique de Robert Antelme, le mari de Duras, qui a été déporté à Dachau, je le rappelle, pour fait de résistance, et dont elle guette à Paris le retour. Car c'est ça, La Douleur. En juin 44, dans un Paris encore occupé, la jeune romancière raconte dans son journal intime qu'elle a prétendu n'avoir jamais retouché, mais évidemment c'est faux, l'attente angoissée de son mari, mais aussi tout ce qu'elle est prête à faire pour le retrouver, y compris donc séduire cet agent français de la Gestapo. Film de 2h06, où d'ailleurs Finkiel a fait un choix, qui est à mon avis assez juste pour ce Paris occupé, c'est avec beaucoup de gros plans, ce qui évite des scènes inutiles, et avec une Mélanie Thierry que j'ai trouvée totalement impressionnante, pour ne pas dire plus. Je rappelle que La Douleur avait été publiée en 1985 chez POL par Feu, Paul Otchakowski-Lawrence, qui a disparu il y a un mois et quelques jours. Nicolas.
Mais alors moi, je trouve ce film assez vraiment remarquable. Quoi. Je trouve que c'est un film qui arrive à concilier. C'est un film purement sensoriel et mental, en fait, et qui arrive à concilier deux.
Oh, pas uniquement. Il y a quand même de l'action.
Oui, non, mais d'action, mais je veux dire, on est vraiment dans la tête de Duras,
dans sa tête,
qu'il arrive à concilier deux mouvements qui sont souvent contradictoires ou redondants au cinéma, c'est l'image et la voix off, c'est-à-dire le cinéma et la littérature. Il arrive à rendre palpable et vivant le texte, parce qu'il reprend beaucoup de textes directement du bouquin de Duras, et c'est un film qui est, voilà, on est littéralement et littérairement à la tête de Duras. Ce qui est très beau, c'est cette manière de tenir le principe de mise en scène qui est de filmer en longue focale avec ce flou toujours autour d'elle, c'est-à-dire qu'on voit effectivement des bribes, on voit souvent souvent les façades d'immeubles, c'est comme ça une idée de Paris presque intemporelle, et puis cette absence, l'absence, elle est aussi dans le flou, quoi. Enfin, il tient un principe de mise en scène qui est vraiment très très beau.
Il poussera cette image là dans le dernier plan qu'on va pas raconter de manière, à mon avis, magistrale, le tout dernier plan.
Et puis il y a aussi, et puis il tourne pas le dos à la complexité du personnage, quoi, à ses ambivalences, à son ambiguïté, et ce qui est assez beau d'ailleurs, c'est qu'on se demande même si cette douleur, elle est, enfin, de quel nom est cette douleur, et je crois, d'après ce que j'ai compris, il a rajouté un personnage dans le film qui est Madame Katz, qui est la voisine, je crois qu'elle n'était pas dans le lit, si je ne dis pas de bêtises, et c'est vraiment elle qui amène un contrepoint émotionnel qui est très beau, parce qu'elle, c'est une grand-mère, donc une voisine, une grand-mère juive, qui attend sa petite-fille, et il y a ces deux attentes parallèles, et une attente qui, j'allais dire, est beaucoup plus maternelle, viscérale, et puis cette attente à elle qui est, parce qu'on comprend, voilà, comme on le sait, que quand il a été déporté, leur amour était déjà s'étiolé, quoi. Enfin, et c'est, voilà, je trouve qu'il y a c'est un film qui assume une complexité, un côté mal aimable, qui le rend absolument fascinant, et puis il y a une vraie, enfin, en termes de mise en scène et d'interprétation, c'est tenu à un point
franchement assez, j'avais pas vu Mélanie Thierry au cinéma depuis longtemps avec cette qualité.
Ah oui,
cette puissance, je dirais même, parce que c'est pas un rôle facile à porter. Hein. Sophie.
Oui, je trouve le film impressionnant, vraiment remarquable. Il se tire d'écueils déjà super difficiles, adapter un livre, le livre de Duras en plus, qui est celui-là en particulier.
Cette période de
cette période qui a été vachement montrée au cinéma et qu'il filme à minima. Et alors ce qui est très habile de sa part et très fort, c'est que la problématique du livre, qui est la problématique de la littérature finalement, hein, comment dire ce qu'on ne peut pas dire. il en fait une problématique de cinéaste et il filme. Enfin, c'est vraiment, il en fait comment montrer ce qu'on ne peut pas filmer. Et ce qui est très beau, c'est qu'il arrive à rendre compte de cette histoire rien que par les angles morts. Alors en effet, comme le dit Nicolas, tout simplement en nous projetant, nous spectateurs, dans la tête de Marguerite, qui n'est pas encore Duras, qui est une jeune femme de 30 ans et ce paysage mental de cette femme-là, il est étrange parce qu'il est très clos, il est très fermé. Alors en effet, elle pense un peu à Antelme, elle couche avec Mascolo, elle a un rapport avec Rabhi un peu ambigu, tout en lui disant à la fin, grâce à vous, je ne suis pas restée séparée de mon mari. Elle lui dit quelque chose de cet ordre-là. Et en même temps, c'est un univers dans lequel elle s'interdit de rêver, dans lequel on s'interdit tout, enfin tout. Et le film est à l'image de ça, c'est-à-dire qu'on est, vraiment sous boisseau, on est dans l'étouffement, en fait, dans quelque chose de claustrophobique, parce que, en effet, on s'interdit tout, comment dire, tout rêve, tout romanesque, on reste au plus près des faits, de ce qu'on ressent. Et en même temps, curieusement, je trouve qu'il y a une dimension érotique, taraudée par la mort, mais érotique, qui court.
Ah, moi, j'ai pas trouvé du tout ça.
Ah ben moi, j'ai été saisie troublée par l'érotisme à la fin, notamment. Et pourtant, il y a la fin, enfin pas l'extrême fin, hein, pas le retour, mais qui est vraiment, qui moi m'a paru extrêmement vertigineuse.
Daniel.
Ah, moi, je trouve que c'est un acte de foi dans le cinéma. Tout ce que peut montrer sans montrer le cinéma et la littérature. C'est pour moi une adaptation absolument géniale, parce que on est avec cette femme, on est avec ce que va devenir Marguerite Duras, on est dans ses mensonges, dans l'image qu'elle veut donner d'elle. Il arrive véritablement à avoir des strates de sensualité, de sensibilité. Je trouve qu'il a un culot formidable, justement, pour ne pas faire une reconstitution du Paris à la Libération.
Oui.
La façon dont il le fait est absolument formidable, c'est-à-dire qu'il va dans ces restaurants de la collaboration surpeuplés où on bouffe, etc. C'est ça. Et il nous dit c'était ça aussi.
C'est pour ça qu'il y a la sensualité. Dit Daniel.
Et dans ces rues désertes, et tout à coup cette foule qui se goberge, c'est absolument génial. Et effectivement, ce que Mélanie Thierry fait, de plans absolument de strates, de sensualité, de sensibilité, de bouderie, de création. Enfin, je trouve que c'est un film absolument miraculeux. On avait un peu perdu Emmanuel Finkiel, évidemment. Et là, c'est vraiment une merveille.
Je vais faire court, je suis entièrement d'accord avec mes petits camarades. C'est un bonheur absolu de cinéma, de littérature, d'interprétation, de lumière. La photographie est extraordinaire et elle participe aussi. Elle est à la fois chaleureuse et froide. Cette façon de faire cohabiter à l'écran tous les contraires. C'est un film sur la foi. C'est quand même une femme intellectuelle qui a les moyens de réfléchir, qui se les donne.
C'est aussi un film sur la. Enfin, c'est un livre et un film sur la stratégie aussi. Oui. Hein, c'est un livre de stratège.
Mais
aussi,
absolument. Hein. Et en même temps, moi, quand je parle de foi, c'est qu'elle croit vraiment qu'il va rentrer tout autour de lui. Lui dit, mais non, prépare-toi au deuil, prépare-toi à la souffrance. Avance le chemin, tu n'en souffriras que moins. Elle y croit dur comme fer. Elle sait que cet homme va venir. Et pourtant, elle évolue dans un monde de fantômes. Vous l'avez dit, il y a du flou, il y a de l'éthéré à l'intérieur de chaque cadre. Il y a les ruptures entre les plans très saturés, comme l'a dit très joliment Daniel, du restaurant. Immédiatement après, elle est toute seule perdue dans la place de la Concorde. C'est un des rares plans larges, mais il a une force.
C'est un plan incroyable. Je sais pas comment il a fait ça.
Le 15 août, ça, tu peux le faire le 15 août.
Non, même le 15 août.
Parce que maintenant, on peut nettoyer aussi avec les palettes graphiques et les choses comme ça.
Mais le film. Grâce à Madame Hidalgo, elle peut nous faire un nettoyage complet de la place de la Concorde.
Ce qui fait qu'à la fin, même si on la connaît, même si on l'a lu, on a presque un doute. Est-il vraiment derrière la porte? Est-il vraiment là? Et je trouve que cette manière d'inverser complètement, grâce à la magie, à la beauté du cinéma, une certitude, un témoignage, eh ben, ça prouve qu'effectivement, le cinéma peut vraiment nous amener dans des univers extraordinaires et d'identification. Tout ce que Rad Fatih Akin, Emmanuel Finkiel le réussit.
La douleur, Emmanuel Finkiel, allez-y. Lisez aussi, évidemment, La douleur chez P.O.L. Lisez aussi L'espèce humaine de Robert Antelme, très, très grand livre.
Il ressort en poche, La douleur. Hein.
Tant mieux, pas de réaction sur ce film. Allez, maintenant, on va aller vite parce qu'il reste peu de temps. Dernier personnage, si j'ose dire, un peu sacrificiel. Alors là, j'ai eu du mal, c'est Anna, film tourné en 35 mm de l'Italien Andrea Palaoro, qui a quand même valu, là encore, à Charlotte Rampling, décidément c'est payant, le prix d'interprétation à Venise, avec aussi André Wilms et Jean-Michel Balthazar. Et Charlotte Rampling, c'est Anna, femme de ménage, déjà on a du mal, dont le mari a été arrêté et incarcéré, sans qu'on comprenne pourquoi d'ailleurs. Très bien. Si, t'as compris, toi ?
On recolle un peu le puzzle, mais la bonne idée du film, l'une des très bonnes idées du film, c'est justement de ne pas expliciter la raison pour laquelle
elle essaie de poursuivre sa vie. Ses enfants ne veulent plus la voir, mais elle essaie de poursuivre sa vie de cours de théâtre en salle de gym. Un portrait incroyablement austère, étouffant, gris, sans doute d'ailleurs très juste, d'une femme pour bien montrer qu'elle est accablée par la solitude, mais à ce degré de... Voilà, il y a un moment donné, on a envie de lui dire, oui...
C'est pas étonnant. Envie de lui dire oui.
Non, mais c'est pas étonnant que tu sois seul à ce point-là, quoi. Je veux dire, il y a. Xavier.
Moi, j'adore le film. Il m'a vraiment scotché. Mais oui, ben, je suis désolé. On m'avait dit, tu verras, c'est pas bon, c'est raté. Moi, j'y suis allé. J'étais emporté immédiatement dès la première image. Effectivement, on est claquemuré avec cette femme. Je trouve que toutes les idées de distance entre la caméra, la mise en scène et le corps de Charlotte Rampling, parce que c'est un corps entier, c'est un corps raide, c'est un corps muré, c'est un corps taiseux, sont toujours extrêmement intéressantes. Moi, en tout cas, ça m'a intéressé. Je suis ravi, effectivement, que le scénario n'explicite pas les raisons pour lesquelles son mari a été incarcéré, même s'il y a des pistes. Oui. La fureur du fils, voilà, je veux dire, c'est pas très compliqué. Mais tant mieux, parce que le film, justement, n'est absolument pas sur ce terrain judiciaire ou sociétal. C'est cette femme, dans des lieux exutoires, qui sont effectivement l'indifférence de son lieu de travail, femme de ménage chez des gens un peu riches, qui la traitent plutôt gentiment, et puis ce lieu de théâtre, où de temps en temps, elle vit des choses dont on a l'impression qu'ils lui appartiennent complètement, et qu'elle a enfin l'occasion, au sens, à un moment propre et figuré, de vider son sac. C'est pas une des scènes les plus réussies du film, où elle vide un sac et on se dit que bon, voilà, le travail de catharsis est en train de se faire. Mais franchement, c'est un film qui repose sur la mise en scène, qui repose sur l'observation, qui repose sur un refus d'empathie, de compréhension, mais au contraire, essayer de percer le mystère de cette femme qui s'est reclue sur elle-même. Charlotte Rampling est absolument extraordinaire. C'est, pour moi, c'est comme la douleur, à un degré différent.
C'est
l'intérêt d'un cadre,
tu
d'un personnage qui
douleur,
s'y inscrit, qui s'est dit, qui en sort. Ben, je termine juste ma phrase et je vous laisse
ben,
en dire
dernière,
tout le mal. Mais pour moi, c'est le même travail de conscience de ce qu'est un personnage, de comment le filmer, de comment l'inscrire dans un cadre. Et même dans les gros plans sur Charlotte Rampling, il y a une idée du hors-champ, il y a une idée de la ligne de fuite,
la douleur,
il y a une idée d'un avenir interdit que je trouve absolument magistral.
Nicolas.
Oui, mais pour moi, c'est moins un film sur la solitude de cette femme que sur la grande solitude du spectateur, justement, qu'on ressent. Quoi.
Ah non, c'est ça.
Tu l'avais pas travaillé, ça.
Pas du tout.
On se sent très seul. Hein.
C'est vraiment exactement l'inverse de la douleur. C'est-à-dire que sur le papier, c'est en gros un cadre très, très précis avec la position de cette femme dans ce cadre. Et en fait, c'est une idée qui est censée être subtile, mais qui est quand même assénée. À chaque plan dure, je sais pas, 3-4 minutes. Donc, au moment, l'idée, on l'a comprise. C'est vraiment pour moi une caricature du cinéma d'auteur. C'est-à-dire que il y a un bon cadreur, une grande actrice qui a pas grand chose à faire, un bon filmeur qui a pas grand chose à raconter de plus qu'un court métrage ne saurait faire. Charlotte Rampling prend le métro, Charlotte Rampling dîne avec son mari.
C'est
pas la même ambition, je pense.
Mais c'est bien aussi.
Donc Charles Crampy dans son petit quotidien grisâtre. Puis à un moment, je me dis, il y a un choc scénaristique, un séisme. Il y a une fuite au plafond. Là, vraiment, on croit qu'il va se passer quelque chose.
Tu commences à déjà me gâcher. Oh non !
Et finalement, en fait, cette suite, non ?
Je m'étais dit, personne ne va en parler de cette suite.
Et en fait, cette fuite, c'est quoi ? C'est des enfants qui jouaient, n'aura aucune conséquence après sur le film. Je pense qu'il y a une grande portée métaphorique. Moi, le seul qui m'a bouleversé, c'est le chien. Il y a un plan magnifique de la poêle avec un poisson qui cuit et le chien en dessous. Et c'est au tout début, parce que le chien a faim, et comme sa maîtresse ne va plus bien et que son maître est parti en prison, le chien ne veut plus manger. Et ça, voilà, le chien m'a bouleversé.
Oui. Merci Nicolas, moi aussi.
Allez, voilà. Rapidement, Daniel.
Oui, non, alors franchement, autant il y a 2 ans, un film avec Charlotte Rampling, qui avait 45 ans, qui était absolument magnifique, où effectivement elle avait son âge et c'était magnifique, et c'est une actrice qu'on adore. Et là, je trouve que c'est embarrassant. Je veux dire, ça commence sur un gros plan où elle a le courage de son âge, ok, d'accord, très bien, et ensuite il ne se passe rien que la déshérence de cette femme qui effectivement va viser les poubelles et qui jette ses délices qui fanent. Mais quoi ? On ne sait pas ce que fait son mari. Son fils est très désagréable. Elle arrive avec un gâteau d'anniversaire pour son petit-fils, on la renvoie. Elle est autant femme de ménage que moi danseuse nue. Enfin, je veux dire, on n'y croit pas.
On m'a dit que tu l'as été. Hein.
Oui, mais enfin, il y a très très longtemps. Et donc, on n'y croit pas et on a de la peine pour nouvelle. J'ai rien compris, voilà.
Sophie, je vais pas m'acharner, mais je suis pas très enthousiaste. Ça me gênerait pas ce scénario un peu troué comme ça, si et très relâché d'une certaine manière, où on a juste vu des indices. S'il y avait une vraie mise en scène, mais je trouve qu'il n'y a pas d'univers, moi. Et ça me gêne davantage. Et malgré le fait qu'il filme avec passion ce visage énigmatique, ce corps, comme tu dis, taiseux de Charlotte Rampling, en dépit du fait qu'elle soit à chaque plan, je trouve que rien ne prend. Tu vois, au bout d'un moment, j'espérais que quelque chose allait prendre, mais le ciment reste liquide, quoi. Il y a pas de, ça se solidifie pas, et ça me dérange.
Allez, Anna, Andrea, Pala, Oro, très rapidement aussi, malheureusement, parce que moi je l'aime beaucoup ce film, pourtant il n'est pas gay, hein. C'est la juste route d'un Hongrois qui s'appelle Ferenc Török, et ça se passe en Hongrie en août 45, quand la Hongrie est occupée par les Soviétiques. Une petite gare de campagne, arrive un train d'où descendent deux juifs orthodoxes, un père et son fils, avec deux grosses malles, et ils vont traverser le village, un village qui est paniqué parce qu'ils sont tous convaincus, les habitants, qu'ils sont venus pour reprendre leurs biens, la plupart des biens ayant été évidemment spoliés. La fin, je ne vais pas la révéler. Non, mais là, plus je suis sérieux, je ne dirais pas pourquoi ils sont revenus l'un et l'autre. C'est un noir et blanc qui m'a rappelé un peu le Ida, de, je ne sais pas si vous l'aviez vu, de Polikowski, qui était admirablement juste. Voilà, c'est un film qui m'a bouleversé, mais je n'ai pas rapidement... Je n'ai pas vu, Daniel.
C'est absolument magnifique. C'est effectivement un film sur la mauvaise conscience collective. Les Hongrois sont très forts. Le cinéma hongrois ne cesse d'avoir mauvaise conscience et de le dire dans toutes les époques. Et dans celle-là particulièrement, effectivement... Tout le village est coupable. Tout le village est coupable. Et ils essayent...
Avec un personnage de maire qui est le maire qui est abominable.
Le personnage du curé qui refuse même la confession. Enfin, et ces silhouettes absolument implacablement dignes qui traversent ce paysage d'un noir blanc extraordinaire. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est un film bouleversant et qui dit alors là, au contraire de beaucoup de choses dont on a parlé ce soir, beaucoup de choses de notre...
Xavier, un mot sur ce film?
C'est un film magistral, comme beaucoup de films ce soir, y compris Anna. C'est un film qui repose énormément sur la mise en scène, sur la distorsion du temps. On croit que ça dure 1h30, le temps réel. On a l'impression que c'est une boucle temporelle qui est celle de la mauvaise conscience, dont on ne sortira absolument jamais. Il y a un travail sur le son, il y a un travail sur la musique gutturale. Il y a un travail absolument, mais extrêmement fin, extrêmement subtil, presque du cinéma de genre, pour raconter cette histoire, et qui fonctionne complètement, qui est d'une cohérence, d'une intelligence et d'une synergie absolue. On croit avoir déjà vu ce genre de film, et franchement, moi, c'est la première fois que j'ai été saisi à ce point par le formel et par le fond.
Un mot, Nicolas?
Moi, j'ai un peu plus de réserve. Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans cette carriole avec ces deux personnages juifs qui rentrent dans la...
Qui arrivent. C'est pas une carriole.
Non, pardon. Le tombereau. Et puis tout ce qui se met à jour à côté sans que le sache, et tous ces masques qui tombent. Après, je trouve que ça m'a fait dans Ida, je trouvais la même chose. Il y a une fausse pudeur et une distance un peu compassée dans la mise en scène.
Si c'est pour avoir ces réserves, c'est pas la peine de parler.
Voilà,
on a très peu de temps.
Le noir et blanc adouci.
Moi, je vous conseille vraiment La Juste Route de Ferenc Török. Et une plus petite poignée de minutes pour me dire ce que vous pensez de Brillantissime, rebaptisé par beaucoup d'entre vous le Nullissime, le premier film comme réalisatrice de Michel Larocque, avec elle-même bien sûr, Kad Merad, Françoise Fabian, Gérard Darmon, Rossi De Palma, une histoire très originale d'une femme abandonnée, avec moins de pathos peut-être que chez Fatih Akin. Ça se passe à Nice et c'est l'adaptation d'une pièce anglaise qu'avait jouée Michel Larocque, voilà. Xavier,
c'est même pas nul, c'est fade, c'est rien, c'est plat, c'est lisse. On sait même pas à quoi lui reprocher. Il y a pas grand chose effectivement. Les personnages secondaires m'ont fait rire. Françoise Fabian et Rossi Di Palma m'ont tiré quelques maigres sourires. Mais fallait bien que je justifie ma venue un matin pluvieux pour aller voir le film en salle, parce qu'bien évidemment il ne nous avait pas été montré. Mais heureusement, il y a une musique d'Alex Baupin.
Sophie,
mais c'est tout. C'est pas bon. Alors elle essaie en plus de faire un truc qui est vachement difficile. C'est la petite comédie pleine de fantaisie, un peu charmante, un peu élégante, un peu chouette comme ça. Et elle est pas, elle peut pas quoi. Elle y arrive pas. Enfin et là encore le c'est fou quoi. C'est l'idée qu'on se fait d'un psy des relations entre un psy et sa patiente et elle essaie d'en tirer de l'humour, mais on n'y croit pas. Le problème du rire, c'est comme les pleurs, c'est qu'il faut que ce soit vrai pour qu'on rie. Il faut pas que ce soit... Alors, on peut styliser un peu, mettre le curseur un peu dans la caricature, mais si on fait un truc complètement faux, ça peut pas être drôle. Donc, c'est jamais drôle, on s'ennuie.
Ah non,
quoi.
T'es d'accord, donc c'est jamais
bien
drôle.
Bien sûr, c'est mauvais.
Michel Larocque, elle a un capital de sympathie qui n'est pas usurpé. Je veux dire, c'est quelqu'un qu'on aime bien. Ben voilà, ouais. Bon. Alors, je vais pas faire... puisque maintenant, c'est nos auditeurs qui nous donnent l'autorisation quand même de dévoiler un petit peu la la fin des films. Vers la fin, il y a une réplique quand même qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée, qu'elle dit « Tout est une question de timing ». Eh bien, c'est la définition même du film. Le timing n'est pas bon.
Bon, et Nicolas ?
J'ai beaucoup aimé, je ne l'ai pas vu.
Ah, tu ne l'as pas vu.
Et on peut savoir pourquoi ? C'était au programme.
Je te dis, vous n'avez pas été méchant. Hein. Moi, je m'attendais à ce que vous soyez plus dur.
C'est trop gentil pour être méchant. Quoi. C'est fade, comme dit Xavier. C'est un peu insignifiant. Quoi. On ne va pas s'acharner non plus.
Alors, brillantissime, donc, de Michel Larocque. On a le temps, un peu vite de conseiller un film.
Alors, moi, je vais reprendre un conseil qu'a donné Charlotte. Mais parce que le film est toujours à l'affiche. Je
Charlotte
suis allée vérifier.
Pétinska, oui. Au dernier masque.
Oui, qui était « I'm not a witch ». De Rungano Mignoni, que je trouve un film, on est passé un peu vite.
Oui, absolument.
Il est encore à l'affiche. Alors, pas partout, évidemment, mais il joue encore dans quelques salles. Et je trouve que c'est à la fois une fable africaine et en même temps, c'est une féerie très universelle et que je trouve vraiment très bien. Ouais. Et le film sort que dans 3 jours, mais je voudrais recommander, vous allez en parler, j'imagine, Gaspard va au mariage.
On en parlera dans 15 jours.
Voilà, alors en amont, il sort dans 3 jours.
Avec un excellent Félix Moëti.
À quel point ce film est génial.
Et puis enfin, une vision du zoo, du vrai zoo, à laquelle on est.
Oui, et puis c'est aussi une comédie, une réinvention de la comédie à la Hawks aussi. C'est dingue, il y a plein de choses dans ce film. Il est vraiment très riche.
Et il sort
très drôle et très mélancolique.
Ce mercredi.
Il sort dans 3 jours.
Ah d'accord, alors c'est bon. J'accepte ce conseil, Daniel.
Alors un documentaire de 3 anciens copains de lycée, Fabien Agège, Vincent Asser et Guillaume Namur, sur Jean Douchet. Avec en sous-titre « L'enfant agité ». L'enfant agité étant le titre d'un scénario qu'il n'a jamais tourné. Et c'est un documentaire extraordinairement fervent sur ce grand passeur de passion du cinéma, sur cet animateur qui continue à 89 ans à animer des ciné-clubs, avec des témoignages de Pléchin et Xavier Beauvois. Et la présence de ce vieux lion, de cette tête de vieux lion magnifique, c'est très, très sympathique.
Jean Douchet, le documentaire, voilà. Nicolas.
Moi, j'ajoute ma voix à celle de Sophie sur Gaspard, que je trouve aussi très réussie. Et moi, je conseillerais un livre qui s'appelle The Disaster Artist, qui est l'histoire d'un film qui est considéré comme le Citizen Kane des nanars, qui est un film qui s'appelle The Room, qui a été réalisé par un type complètement bizarre, très gothique, qui s'appelle Tommy Wiseau. Et c'est l'histoire c'est le making-of de ce film et la relation très particulière qu'entretenait ce Tommy Wiseau avec un jeune acteur qui l'a fait débuter, qui s'appelle Greg Sestero. C'est vraiment une histoire d'Hollywood vue du pendant des ratés et c'est le film qui c'est le bouquin qui a adapté James Franco, donc le film de James Franco qui
sort
au mois de mars
film qui sortira dans
et le bouquin est fou et assez touchant
c'est chez
Carlotta. C'est un bouquin qui a quelques années qui vient d'être traduit en français chez Carlotta.
Le conseil de Xavier,
juste en 2 mois, un hommage à Yves Afonso qui nous a quitté il y a une semaine et qu'on pourra voir dans Sparring qui je crois est au programme du prochain masque. Voilà, rappeler cette figure quand même du cinéma émouvant, touchante, unique en son genre. Je suis content qu'il y ait encore un film de lui. Le conseil, en revanche, plus joyeux, on va dire, c'est Enquête au paradis de Merzak Alouache, qui est un docu-fiction totalement narquois, trafiqué, où il filme une journaliste partie sur une enquête auprès des gens de la rue. Pourquoi est-ce que les hommes ont le droit, dans la religion musulmane, à 72 vierges quand ils arrivent au paradis, alors que les femmes n'ont droit qu'à leur mari, hein, puisque évidemment, comme sur Terre, Allah leur avait donné le bon, il n'y a pas de raison.
Et là, tu peux raconter la fin, là ?
Non, je raconterai juste cette phrase absolument géniale de Biouna, parce que les femmes sont évidemment beaucoup plus intelligentes en règle générale, mais en particulier dans le film, qui dit « Mais je comprends pas, déjà sur Terre, ils galèrent avec une seule nana, et au paradis, ils en veulent 72, ils y arriveront jamais !»
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume. franceinter.fr. Merci Sophie Avon, Daniel Eman, Xavier Le Herpeur, Nicolas Chalair pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam. Ce soir, au Sachet Guitry à la technique, et je les remercie, Claude Niort, Stéphane Touvenat et Manon Houssin. La réalisation était de Didier Lagarde. Vous notez, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, ce sera le jeudi 8 février à 20h au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour 2 émissions. L'une consacrée au livre, l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle de théâtre. Et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.